France Inter.
Je dirais que les compositeurs permettent de rendre notre humanité la plus belle et la plus complexe possible. Beethoven et ses réflexions en tant que citoyen et artiste, c'est une inspiration de tous les jours. Schubert et sa relation à la nature, cette manière d'être humble face au monde, chaque compositeur aspire à nous connecter à la nature divine.
Il est certain que nos textes de fiction sont plus intelligents que nous, voire dans l'écriture, se dessiner des compréhensions d'une puissance inouïe que nous n'aurions jamais pu avoir si nous n'avions pas écrit ou lu un texte dans lequel d'autres que nous, mais en même temps nous-mêmes, s'agitent.
Née à Monaco de parents sri lankais, la française Shani Di Luca suit une formation de pianiste classique qui l'amène à rencontrer de grands noms du piano, Martha Argerich, Nicolas Angelich, Maria Juan Pires ou les chefs, Lawrence Foster ou Leon Fleischer. Ouverte à toutes les cultures, elle interprète le répertoire classique et baroque, mais aussi des minimalistes américains ou des compositeurs français contemporains comme Bruno Mantovani. Renaissance, c'est le titre de son nouveau disque dans lequel elle explore la musique de la Renaissance et ses héritiers. Je salue Shani Di Luca, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le Grand Atelier. Vous invitez une romancière dont on connaît entre autres l'élégance du hérisson. Bonjour Muriel Barbery.
Bonjour Vincent Josse.
Dernier livre publié, Thomas Elder, chez Actes Sud. C'est le Grand Atelier, en direct sur France Inter.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Shani Di Luca prend une heure de son temps pour être avec nous. Comme son invitée, la romancière Muriel Barbery, est-ce qu'il y a, Shani Di Luca, des jours où vous vous autorisez à ne pas jouer de piano?
Oui, d'ailleurs je crois que c'est salutaire de pouvoir écouter le vent, les arbres, le silence, parce que le son naît du silence. Donc je pense que tout, d'ailleurs je dis à mes élèves aussi qu'il est important d'être connecté quand on joue du piano et être connecté aussi avec le monde et d'être aussi témoin du monde.
Donc il faut imaginer Shani Di Luca sortir de sa pièce où se trouve le piano chez elle, parce que je pense que vous jouez chez vous.
Oui, entre autres, oui.
Et aller soit dans le jardin, soit dans un parc, contempler, écouter.
Oui, j'ai la chance d'habiter près du parc Montsouris, mais ça peut aussi être en tournée, ça peut être en bord de mer, lorsque je joue au Havre, ça peut être au Sri Lanka, aller dans un temple, ou au Japon, dans un jardin zen. Donc tous les lieux, dire, tous les moments de la vie permettent de trouver une fenêtre d'inspiration.
Mais vous allez chercher quoi dans cette nature ?
Je pense que c'est une sorte d'harmonie qui résonne au final avec la musique. L'art, pour moi, est une sorte de quête pour être proche de la réalité et de la nature. Donc, quand on voit les compositeurs comme Beethoven ou Schubert, ils ont essayé de nous mettre en relation avec le bruit du vent, avec le chant des oiseaux, avec le parfum du tilleul. Et le vivre, avant tout, c'est l'inspiration première avant d'aller au piano.
Quand vous revenez de cette balade, ou le lendemain, est-ce que vous vous sentez plus riche devant le clavier d'avoir observé tout ça, entendu des oiseaux, respiré un autre air ?
Oui, par exemple, quand je joue les minimalistes américains, de voir l'océan la veille, de se perdre et de marcher au moment du crépuscule au bord de la mer, de voir l'infini du ciel, de voir un ciel étoilé, ça nous emmène dans un imaginaire, même dans une idée que nous sommes vraiment infimes dans ce monde et que la musique et l'art nous permettent de connecter à cet invisible, à cette immensité. Donc oui, ça nourrit tout à fait. D'ailleurs, quand je joue, je vois des images, je vois des couleurs, je ne vois pas des notes.
Ah bon ?
Oui. Depuis toute petite, je fais de la synesthésie, donc je vois des couleurs.
Il faut expliquer ce que c'est.
Oui, la synesthésie, c'est voir des couleurs à la place des notes de musique ou même des parfums. Et donc, je coloriais mes partitions. Donc, je voyais des couleurs dans une barcarolle de Chopin. Ça peut être du rose pâle, des couleurs pastel. Quand je vois du Beethoven, c'est plutôt du rouge ou du jaune profond. Et donc, pour moi, la musique, les notes, c'est vraiment la partie de l'iceberg. Et la partie immergée, c'est le mystère, c'est l'invisible, et c'est ce que je ressens quand je joue.
Muriel Barbery, est-ce que vous avez, vous aussi, des images, des couleurs qui viennent quand vous réussissez à écrire? Parce qu'on réussit ou pas à écrire, il y a des jours sans et des jours avec, j'imagine, je ne suis pas écrivain, mais vous allez nous le dire. Est-ce qu'il y a des images qui viennent, des senteurs, des parfums, des couleurs?
Ben, ça tombe bien, en fait, il y a des musiques qui viennent.
Vous, ce sont des musiques?
Oui, c'est vraiment, l'écriture, c'est une question de musique, de mélodie, de flow, c'est ce qu'on cherche, enfin, ce que je cherche lorsque j'écris, et la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'écris en musique, puisque...
Ça vous perturbe pas?
Alors, je choisis soigneusement les musiques avec lesquelles je travaille, pas toujours parce que je les aime, mais parce qu'elles ont un rythme, un phrasé, des mélodies, une tonalité, une couleur qui vont avec le texte que je veux écrire.
Un vaste ciel de neige se penchait sur le cimetière de Châteauvieux où l'on portait en terre Thomas Elder et Margot Chanet pensait « Je ne devrais pas être là ». Ça, c'est le dernier bouquin de Muriel Barbery, hein, Thomas Elder. Il y avait quelle musique quand vous écriviez ça ?
Handel.
Handel.
Oui, et en fait, c'est... il y avait la musique de Barry Lyndon, pour ne rien vous cacher. Et en particulier, le début du roman, je l'ai écrit sur la sarabande.
Ah oui, un tube.
Le tube parfait pour écrire un roman
Handel,
sombre.
Handel, qui est un des meilleurs amis de Chani Di Luca.
Oui, il figure dans mon disque Renaissance, parce qu'il est un héritier de la Renaissance élisabéthaine. Et Handel a ce... côté d'ailleurs, Handel, les gens connaissent Handel parce que c'est aussi la musique de la Ligue des Champions quand on écoute, quand on voit le football.
Non.
Mais oui, et d'ailleurs,
vous
j'en parle...
Vous voulez pas nous fredonner cette musique, Chani Di Luca?
Oh là, c'est compliqué. Ta 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 ta. C'est vraiment l'hymne de la Ligue des Champions. J'en parle parfois à des jeunes, justement, qui ne croient pas que ce soit de la musique. Alors qu'ils pleurent en écoutant du Handel. Et c'est vraiment.
Ça vous plaît, ça.
Mais en fait, j'aime l'idée que les gens ne savent pas que c'est de la musique classique. Et qu'ils sont émus. Et ils se lèvent, ils ont des larmes aux yeux. On découvre la musique classique dans des films. Barry Lyndon, justement, il y a du Schubert, il y a Handel. Bien sûr qu'il y a la chaconne, mais le mouvement lent de Schubert, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres grandes pages du cinéma. Kubrick était un amoureux, il nous a fait écouter du Ligeti avec Eyes Wide Shut. Donc,
dans la plupart de ses films. Hein.
Voilà, pour moi la musique classique c'est finalement un préjugé, parce que tout le monde aime la musique classique. Je suis toujours surprise de voir que les écoutes sont plutôt des jeunes de 20 à 35 ans. Mais on ne sait pas que c'est de la musique classique, on sait que ça nous touche, et finalement c'est tout ce qui compte. Et puis c'est large, on est du 17e au 21e siècle, les minimalistes Philip Glass, Dandy Hours dans le film, c'est aussi de la musique classique du 21e siècle.
Oui, c'est vrai.
Et ça reflète tous les sentiments et tous les paysages possibles, donc oui.
Il y a de jeunes auditeurs de musique classique, et pourtant dans les salles de concert, il y a toujours une bataille pour amener les jeunes dans ces salles. Les cheveux sont plutôt blancs ou mauves.
Oui, alors effectivement, il peut y avoir une sorte de constatation que le public vieillit, mais j'ai un espoir infini, parce que dans, par exemple, les nouvelles formes d'écoute, les streaming, au départ, je ne connaissais pas vraiment Spotify, Apple, etc. Toutes ces plateformes permettent aux jeunes d'accéder à la musique classique de façon presque inconsciente. Ça peut être des playlists sur la méditation, sur la concentration. Souvent, les personnes aiment plutôt de la mélancolie, plutôt du calme. Je crois que dans le chaos ambiant, la musique classique apporte cette paix intérieure. Dans ma démarche aussi de musicienne, c'est de montrer que le classique est inscrit dans le réel. Ce n'est pas une utopie. Chaque compositeur était témoin de son temps. Et donc, et a un message aussi social et humaniste. Et donc, pour moi, la Renaissance, justement, partie d'un moment clé.
Muriel Barbery, vous entendez, Chani Di Luca parle de nos moments un peu difficiles. C'est vrai que quand on allume la radio, qu'on regarde la télé ou la presse écrite, c'est un petit peu difficile de se situer aujourd'hui, d'être heureux. Je fais un constat un petit peu excessif, mais est-ce que vous sentez, vous, comme écrivaine, et Chani, comme artiste, qu'il y a une pression sur vous? C'est-à-dire que nous, on attend beaucoup des artistes en ce moment. On a besoin des artistes.
Alors, on a toujours eu besoin des artistes, mais... C'est étrange que vous me posiez cette question, parce que je suis en train de me rendre compte que le roman que je projette d'écrire est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur que ce que j'ai écrit jusqu'à présent.
C'est une conséquence de notre époque.
Et je me demandais justement si l'époque n'infusait pas en moi comme en chacun d'entre nous et ne dirigeait pas ma plume de ce côté-là. J'ai longtemps pensé, je cite toujours lorsqu'on me demande si les romans devraient s'intéresser aux problématiques contemporaines, je cite toujours cette magnifique phrase de Pierre Soulages qui, dans je ne sais plus lequel de ses merveilleux livres d'entretien, a dit que un artiste n'a pas à témoigner de son époque, il est fait d'elle. Un artiste n'est pas un journaliste, il n'a pas à refléter ou expliquer ou décrypter le monde dans lequel il vit, mais évidemment, il est traversé de part en part par ce qui l'entoure. Et j'ai le sentiment d'être gagnée par une certaine noirceur, et j'ai confiance aussi, comme toi, Chani, en l'infinie capacité de l'art ou de la littérature à transformer la noirceur en lumière.
Et bien, on va parler de tout ça avec vous deux encore dans le grand atelier, Chani Di Luca, pianiste. Virtuose. Et Muriel Barbery, je citais tout à l'heure L'élégance du hérisson, bien sûr, il y a bien d'autres livres, et je voudrais qu'on parle dans un instant du Japon ensemble, parce qu'il y a un lien très fort de Muriel Barbery et de Chani Di Luca au Japon, mais je voudrais qu'on écoute ce titre très optimiste de Vanessa Paradis, Le retour des beaux jours.
Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Quand l'orage a cessé, cette odeur de poudre fait encore le danger. Fin de parcours, faudrait être givré, aveugle et sourde pour encore plonger. Le compte à rebours après avoir pesé.
Vanessa Paradis qui était l'invitée vendredi de Rebecca Manzoni. Vous les retrouvez toutes les deux en podcast dans Totémique sur franceinter.fr. Chani Di Luca, quand on est concertiste, on voyage, on joue en France mais aussi beaucoup à l'étranger. On rencontre certainement des pays, même si on n'a pas beaucoup de temps, on rencontre des habitants. Il paraît que la rencontre de Chani Di Luca avec Muriel Barbery ne s'est pas faite en France mais au Japon. Vous confirmez ?
Je confirme, même à Kyoto, précisément.
Oui, je confirme aussi.
Alors, qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Chani, vous jouiez ?
Oui, alors je jouais la folle journée au Japon. J'avais une tournée au Japon. Et comme à mon habitude, je termine par Kyoto. J'ai des amis, une sorte de groupe d'amis un peu underground de Kyoto.
Ah bon
on peut dire ça, je pense. Hein.
Ah oui, très underground. Oui, oui.
Dans le sens, ce sont des, comment dire, des artistes. Alors, il y a un réalisateur de la NHK qui est spécialisé au Japon traditionnel, mais en même temps, on écoute du Gainsbourg, on écoute du Debussy. Et puis, un soir, Muriel était là. On partageait un verre de saké. Je me souviens qu'un de nos premiers échange était sur un manga qu'on aimait beaucoup, Samouraï Champloo.
Mais non.
Oui,
qui est... Tu vois, ça, je ne me souvenais pas.
Et en fait, c'est un manga qui est extrêmement... d'ailleurs, c'est un très beau manga qui a été un dessin animé par la suite. Et c'est l'histoire d'un samouraï qui cherche... c'est une sorte de quête existentielle.
Sur fond de persécution des chrétiens à l'ère Edo. Oui, j'avais oublié qu'on avait parlé de samouraï.
Qu'est-ce que vous faisiez au Japon, Muriel Barbery?
Alors, moi, j'étais résidente de la villa Kujoyama. Mais d'accord. J'avais devancé la PEG et je suis restée un an de plus... J'ai débordé la résidence avant et après.
Donc vous avez fait 2 ans à Kyoto.
Deux ans à Kyoto, puis j'y suis retournée aussi souvent que possible. J'y retourne bientôt d'ailleurs.
Mais c'est marrant parce que le Japon s'inscrit dans les romans de Muriel Barbery à plusieurs reprises. Je pense à Une rose seule.
Oui,
d'abord. L'itinéraire initiatique d'une jeune femme dans la ville de Kyoto sur les pas d'un père japonais qu'elle n'a pas connu. Est-ce que le Japon est rentré en vous, si je puis dire?
Il est rentré en moi, je l'ai désiré pendant longtemps. Quand j'ai écrit L'élégance de Harrison, c'était, j'y ai fait figurer un personnage japonais dans l'espoir fou que ça m'amènerait au Japon, ce qui a été le cas, puisque le livre m'a ouvert toutes les portes, y compris celle-ci.
Oui, L'élégance de Harrison en 2006.
En 2006.
Et 2 ans après Kyoto.
Et 2 ans après la villa Kujoyama et 2 années absolument extraordinaires à Kyoto qui ont totalement changé ma vie. Et j'ai fait 1000 rencontres et à chaque fois, les rencontres les plus extraordinaires ont été chez cet ami producteur de la NHK qui s'appelle... qu'on appelle Tochan, affectueusement, chez lequel j'ai rencontré d'autres musiciens que tu connais bien, merveilleux, Eric Maria Couturier, le violoncelliste, Ido Barchai, le pianiste.
Donc vous avez rencontré plusieurs cultures au sein même de Kyoto et du Japon.
Oui, et j'ai même fait figurer, et c'est là que je voulais en venir, j'ai même fait figurer la maison de Tochan dans mon avant-dernier roman, puisqu'elle s'y trouve telle qu'en elle-même. Là où on s'est rencontrés.
Qu'est-ce qui se passe au Japon, qui ne se passe pas ici, par exemple? Qu'est-ce qui est si merveilleux, qui s'inscrit ensuite dans vos œuvres, ou qui amène une nécessité d'y retourner? Chani Di Luca, Muriel Barbery, allez-y.
Tu commences
ou... Chani.
Alors, ce que je trouve au Japon, c'est aussi ce que je trouve dans l'œuvre de Muriel, c'est-à-dire l'invisible. Par exemple, dans l'Ikebana, ce n'est pas, donc c'est l'art des fleurs, de faire des bouquets de fleurs. Ce ne sont pas les fleurs qui comptent, mais l'espace entre les fleurs. Le terme de Komorebi, c'est la lumière qui transparaît entre les feuilles. Donc c'est cet invisible, cette poésie de l'instant fugace. Et je retrouve cette dimension spirituelle de la nature dans l'œuvre de Muriel. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est une connexion, comme dit Novalis, d'être plus proche de l'invisible que du visible. Et je retrouve ça au Japon et chez Muriel.
Chercher l'invisible quand on est écrivaine, qu'est-ce que ça veut dire, Muriel Barbery?
Si je savais, j'arrêterais d'écrire des romans.
Parce que Chani Di Luca insiste sur cet aspect-là de votre personnalité. Ce qui lui plaît chez vous, entre autres, c'est cette quête de l'invisible. Mais je voudrais que vous mettiez des mots là-dessus.
Alors, c'est vraiment difficile. Ce que je sais, c'est que au Japon, pour répondre à vos deux questions, essayez de répondre à vos deux questions en même temps. Ce que je sais, c'est qu'au Japon, j'ai le sentiment d'une présence au monde inédite. Dans les jardins zen, dans les allées des temples à Shinnyodo, par exemple, là où habite Tochan, j'ai toujours eu le sentiment d'être environnée de présences invisibles, alors que je suis parfaitement cartésienne, qui me donne accès à une autre expérience du temps. À la fois un présent très très ancré, une sensation de vivre les choses avec une intensité que je n'ai jamais connue, et en même temps ce merveilleux sentiment d'étirement qu'on a au Japon et à Kyoto en particulier, le sentiment que le temps s'étire jusqu'à devenir éternité, et qu'on est à la fois dans l'instant vécu pleinement et dans une forme de surplomb de la totalité du temps. C'est très curieux comme sentiment, mais c'est invisible là aussi. Et c'est un des mystères de l'existence que le roman s'attelle à essayer de défricher.
Donc vous rentrez et vous essayez de retrouver ça finalement, cette force-là, cette intensité-là.
Oui, en gros, c'est à peu près ça, mais ça prend du temps parce qu'il faut métaboliser l'expérience. J'ai mis 10 ans avant d'écrire des romans japonais, avant que ça puisse se transformer en une expérience fictive.
Vous étiez prof de philo avant d'aller à Kyoto.
Oui,
vous
avant.
Revenez, votre ville est bouleversée parce que vous êtes vraiment romancière à 100%.
Oui, même si j'ai l'impression d'être devenue romancière après mon troisième roman, parce que L'élégance du Harrison était à la fois un merveilleux cadeau et un malentendu. Le succès commercial du texte a fait que Je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne savais pas qui j'étais, et c'est en écrivant le roman suivant que j'ai su que c'était bien mon destin d'écrire des romans.
Vous avez vendu combien de romans, L'élégance du hérisson?
Alors moi, Vincent, je ne vends rien. Hein. Moi, j'écris et d'autres se chargent de vendre.
On a vendu beaucoup, plusieurs centaines de milliers.
Oh, des millions, oui.
C'est vrai.
Bah oui.
Et traduit dans 60 pays, j'imagine.
Alors moins. Vous voyez, vous êtes optimiste.
Il y a eu un film qui s'appelle Le hérisson. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait parce que l'histoire, si vous n'avez pas encore lu, mais vous allez le lire après l'émission. Entre autres, il y en a d'autres à lire. L'histoire de l'élégance du hérisson, c'est une concierge qui fait un peu semblant d'être revêche et qui fait semblant d'être inculte alors qu'elle est très très cultivée. Elle a un chat qui s'appelle comment, Muriel Barbery?
Léon.
Léon, comme Tolstoï. Oui. Elle adore Proust. Il y a une petite fille ado et puis il y a ce monsieur riche japonais. Il va y avoir une rencontre entre trois.
Je viens de faire la connaissance d'une autre concierge, Madame Michel. Tu la connais bien?
Pas vraiment, non.
Curieuse rencontre, je dois dire.
Vous aussi, vous pensez qu'elle n'est pas ce qu'on croit?
J'ai beaucoup repensé au chat de Madame Michel.
Léon?
Oui, Léon. Quelque chose me dit qu'il tient son nom de Léon Tolstoï.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
La même chose qui me dit aussi qu'elle aime beaucoup Anna Karenine.
Madame Michel, elle me fait penser à un petit hérisson. À l'extérieur, elle est bardée de piquants. Une vraie forteresse. Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, elle est aussi raffinée que ces petites bêtes faussement indolentes, farouchement solitaires et terriblement élégantes.
Extrait du film Le Hérisson de Mona Achache, tiré de votre roman Muriel Barbery. Et oui, vous réussissez à introduire le Japon dans un immeuble parisien.
Mais j'en rêvais. En fait, je ne rêvais que d'aller au Japon. J'ai même donné le nom de Yasujiro Ozu au personnage japonais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que le livre soit performatif, qu'il me permette d'y aller. Et ça a été le cas. Et j'ai rencontré Chani.
Chani qui est entourée de musique, qui nous la livre quand elle joue, et puis qui, tiens, livre, c'est un mot important pour vous, qui est entourée aussi de littérature. La littérature fait complètement partie à la fois de votre vie de lectrice, mais aussi de votre manière de considérer votre métier, Chani Di Luca. Pour preuve, le metteur en scène et comédien Charles Berling, qui dirige le théâtre Château Vallon Liberté, vous avez fait un concert lecture avec lui, d'après Sur la route de l'américain Kerouac.
Moi, tout ce que je voulais, c'était noyer mon âme dans celle de ma femme et l'atteindre par le nœud de la chair, en le linceul des draps, tout au long, tout au bout de la route américaine. Il y a un homme et une femme qui font l'amour dans une chambre d'hôtel.
Parfois, on peut voir aujourd'hui des musiciens, en particulier des pianistes, qui sont de grands virtuoses, mais qui, sortis de la musique, ne s'intéressent pas à grand-chose. Mm-hmm. Et Chani Di Luca fait partie de ces rares personnes qui est à la fois une grande virtuose du piano, mais qui est une férue de lecture. Elle a d'ailleurs écrit un magnifique livre de poésie.
Les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne parlent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent.
Elle garde, je dirais, quelque chose que je trouve extrêmement précieux et fondamental dans la culture, c'est l'universalisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire le contraire de la spécialité.
J'ai les cartes des États-Unis.
Ça vous rappelle des choses heureuses, Chani Di Luca, hein, ce travail avec Berling, ce texte de Kerouac, que vous aviez d'ailleurs adapté vous-même, je crois.
Oui, en fait, Sur la route de Kerouac ne parle que de musique. Alors, il y a cette phrase que j'adore, lorsqu'il commence à écrire ce livre, c'est au moment où son père décède, et il cherche un sens à sa vie. Il dit « Je suis à l'est de ma jeunesse, à l'ouest de mon avenir. » Et cette route qu'il va traverser, à la rencontre des fermiers, des prostituées, des poètes, des intellectuels, de la nature, de la drogue, de la musique, va être comme une partition. D'ailleurs, il écrit de façon vraiment presque automatique. Et donc, son langage est très proche de la musique. Et j'avais fait un parcours autour des minimalistes américains, du jazz. Et puis, évidemment, Charles est fantastique pour déclamer ses textes, cette ferveur, cette folie qui rend sage.
Il y avait John Adams sous les doigts de Shani Di Luca, comme on dit sur France Musique. Samuel Barber, John Cage, Gershwin, parliez de jazz, et puis beaucoup d'autres. Moi, j'ai besoin que vous m'expliquiez ce besoin de la pianiste que vous êtes d'embrasser, sinon le monde, du moins plusieurs arts.
Alors, je dirais que c'est peut-être... Il y a un questionnement profond. Je suis née entre plusieurs cultures très opposées.
Je rappelle que vos parents sont Sri Lankais.
Voilà, Sri Lankais. Je vais chaque année au Sri Lanka. Et j'ai eu la chance d'avoir la culture, de connaître la musique grâce à Monaco, à la famille princière. J'étais découverte par la princesse Grace, en quelque sorte. Donc, très, très vite, je me suis posé des questions sur ce monde contrasté, sur ce chaos, justement. Qu'est-ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise? Et cette universalité, c'est cette quête d'harmonie. On parle du Japon, mais l'harmonie, on peut l'avoir sur un bord de mer, dans un jardin, avec une tasse de thé, avec les ancêtres. Toute cette quête de vérité impalpable, on peut l'avoir à travers l'art. Bien sûr, l'art, je pense que c'est le moyen de survivre à une réalité parfois difficile. Ça permet aussi de la comprendre bien mieux. Ça permet aussi, pour moi, l'art de la nuance, des ombres. Aujourd'hui, on ne parle plus des ombres et de la nuance. J'ai rencontré Jean Daniel quand j'avais 20 ans. Ça a été une inspiration profonde dans mes questionnements. Lui a écrit un livre sur l'art de la nuance. Et la musique, bah, c'est un art de la nuance. Donc, pour moi, l'écriture, la poésie, ce sont des accès qui nous emmènent vers ces questionnements fondamentaux. Et c'est vrai que j'écris depuis toujours. Et pour moi, la poésie et la musique sont presque des muses fraternelles. C'est vraiment la sonorité et ce qu'il y a entre les notes, entre les mots qui comptent.
Shani Di Luca, il y a un piano derrière nous dans ce studio, qui est aussi le studio de Nagui tous les jours, et ça permet à la fois de recevoir du monde et de recevoir des artistes qui jouent en direct. Est-ce que vous voulez bien jouer pour nous? Oui, puisque vous êtes en train de vous diriger vers le piano. Ce sont deux extraits que nous allons entendre, deux mélodies qui sont présentes dans le disque Renaissance. Shani, vous avez un micro si vous voulez nous parler, mais je crois que vous allez pour l'instant jouer pour nous en direct dans le Grand Atelier sur France Inter.
Thank you.
en direct, je vous le disais, sur France Inter, le piano de Shani Di Luca qui va nous rejoindre, Shani, et qui jouait un air de The Mad Lover de John Eccles, suivi de My Lady Carrie's Damp. Je ne sais pas du tout si je prononce bien. Elle me fait un signe du pouce, ça veut dire que ça allait à peu près. Merci beaucoup. C'est toujours très, très joyeux d'entendre un artiste jouer en direct, d'oser. On aura forcément toujours un petit truc, non, Shani Di Luca, même si on va dans toutes les salles de concert du monde.
Oui, et c'est toujours difficile de passer de la parole à la musique. Oui. C'est des zones du cerveau très différentes.
Ça va, votre cerveau va bien.
Pour l'instant, ça va de près.
J'aime en particulier ce premier titre, The Mad Lover, que beaucoup de musiciens aiment jouer.
Alors c'est une pièce qui est souvent jouée pour théorbe, pour luth, et jamais au piano. Et quand j'ai commencé à la jouer, je trouvais qu'il y a une sorte de mélancolie assez proche de cette période, justement la Renaissance, c'est le moment où on commence à parler de l'affect. On imagine la gravure de Dürer, où on voit le symbole de la mélancolie, et ces affects, on va les retrouver chez Monteverdi. Pour moi, ce moment de l'humanité est crucial. On sort des guerres de religion entre les protestants, les catholiques, et émerge cette musique, justement, Elisabeth. Les partitions sont souvent brûlées et c'est des musiques populaires. La deuxième pièce, c'est une pièce, on ne sait pas, c'est un anonyme élisabéthain, hein. Voilà, mais c'est une pièce qui était jouée dans les pièces de Shakespeare, par exemple. Et donc, c'est ce côté populaire, presque troubadour, presque chanson pop, je dirais, pour cette première pièce.
Il y a presque un côté comptine.
Oui, exactement, un peu mantra, et c'était vraiment pour moi passionnant de me plonger dans ces partitions qui n'étaient pas écrites pour piano, c'était pour virginal, pour clavecin, pour luth. Donc voilà, c'est vraiment une recherche que j'ai faite à Cambridge aussi pour trouver ces partitions.
Ah, vous allez chercher, fouiller vous aussi? Oui. Ça doit être passionnant ce moment-là dans la vie d'un musicien.
Oui.
Chercher ce qui n'a pas encore été joué peut-être.
Tout à fait. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres comme Alfred Brendel.
Grand pianiste.
Et il disait que nous sommes des archéologues. Et quand on déchiffre, on défriche aussi les partitions. Et les racines de la musique occidentale, donc la musique classique, on connaît Bach très bien, mais celle qui est avant, souvent, on ne sait pas ce qui a nourri Bach dans son imaginaire. Et cette période de la Renaissance, c'est aussi les humanistes, c'est le moment où on découvre Copernic, l'astronomie, on découvre les mathématiques, on découvre aussi Gutenberg, donc l'écriture et les savoirs, l'esprit critique. Et justement, c'est un moment de communion et d'universalité. Et je trouve que ces valeurs-là, aujourd'hui, se perdent aussi, le savoir, la science, les arts, voilà, c'est des choses qui m'importent. Et à travers chaque disque, c'est important pour moi.
Muriel Barbery, il y a plusieurs mots qui reviennent à la fois dans la bouche de Berling il y a un instant, dans la bouche de Shani Di Luca à l'instant, c'est le mot universalisme. Mm-hmm. Et puis, elle a parlé aussi tout à l'heure, Shani Di Luca, du manque de nuances de notre société. Est-ce que ces mots-là résonnent en vous d'une manière particulière?
Oui, tout à fait. Et j'y ajouterai un autre dont tu témoignes par tes propos, c'est celui de complexité. C'est-à-dire que l'art et la littérature, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, ont en commun de proposer une vision complexe de l'existence. Et c'est ce qui est beau dans les romans quand ils sont réussis, c'est ce qui est beau dans la recherche que tu fais de tous les sédiments, de toutes les alluvions sur lesquelles naît la création musicale. Et je trouve que... Il faudrait ajouter aussi un autre terme en ce qui te concerne. Je t'écoutais avec beaucoup d'émotion et ce que j'ai toujours aimé dans ton jeu, c'est sa limpidité. Et cette limpidité n'est pas seulement celle du toucher, n'est pas seulement celle de la parfaite exécution, n'est pas seulement celle de ta sensibilité, mais aussi du fait qu'on entend que tu sais ce que tu fais. Et ça paraît très trivial, hein, mais pendant très très longtemps, j'ai pensé qu'il ne fallait pas savoir ce qu'on faisait lorsqu'on était artiste, qu'il fallait au contraire s'abandonner au mystère d'écrire en ce qui me concerne, laisser venir quelque chose de ce mystère sans comprendre ce que l'on faisait.
Et ça a changé?
Oui, ça a changé, c'était totalement idiot. Je suis de plus en plus convaincue que plus je réfléchis au pouvoir de l'écriture, plus je réfléchis à ce que je fais, plus je pense la raison d'être de ce que je fais, mieux j'arrive à creuser en profondeur en écrivant.
Est-ce que vous sentez vos livres changer? Est-ce que vous sentez votre écriture évoluer, Muriel Barbery?
Heureusement, parce que sinon je ferais un autre métier. Oui, c'est le but, hein, à chaque fois, c'est qu'aucun texte ne ressemble au précédent et qu'il défriche et explore d'autres territoires.
Oui, mais nous sommes attachés aussi à la langue d'un écrivain.
Oui, mais c'est justement ce que je veux faire varier. Parce que mes thèmes ne changent pas beaucoup. Ce sont les mêmes que les tiens, d'ailleurs, hein, Shani. Moi, les deux grands amours de ma vie, c'est l'art et la nature. Donc nous étions destinés à nous rencontrer. S'y ajoute l'amour, l'amitié, la mort, et puis il n'y a pas grand-chose d'autre sur, quoi j'ai travaillé.
Dans le dernier livre, dans le dernier roman, Thomas Elder, c'est effectivement la mort qui est là au début du livre et qui réunit des gens.
Oui, qui réunit des gens, mais vous aurez peut-être noté que le style de ce dernier roman est extrêmement différent. La forme varie parce que j'essaye à chaque fois de percevoir une autre facette de la complexité.
Comme une autre partition.
Comme une autre partition et une autre manière de jouer la partition aussi. Si l'on fait varier la forme, il y a une chance d'entrevoir le sujet que l'on explore différemment.
Il y a des livres là sur la table, moi j'en ai pas mal, là, de Muriel Barbery, et puis il y en a aussi juste à côté de Chani Di Luca. Vous avez envie de lire quelque chose, de lire un extrait, de citer une phrase ?
Oui, avec plaisir. En tout cas, on parle de polyphonie, je trouve aussi, chez Muriel, dans son écriture, il y a une polyphonie. Je pense à la musique de la Renaissance, parce que c'est le moment où on commence la polyphonie, c'est le début de la polyphonie. On est dans le chant grégorien, et puis la complexité des voix qui se répondent, qui se contredisent, mais qui créent une unité. Et c'est presque un symbole de la démocratie. Je trouve que cette diversité des voix qui se retrouvent dans une harmonie, dans une unité, c'est un très beau symbole. Et chez Muriel, il y a cette harmonie.
Qu'est-ce que vous avez sous les yeux là ?
Alors j'ai plusieurs extraits, alors j'ai du mal à choisir. Là, c'est Une heure de ferveur, qui est un roman que j'aime beaucoup.
Tu y as retrouvé la maison de Tocha, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Ueno, donc on retrouve le personnage qui nous a unis, en fait, quand on s'est rencontrés. Alors, je vais prendre peut-être juste l'incipit que je trouve sublime. On dit l'incipit ou l'incipit, je ne sais jamais. L'incipit, pardon.
Allez-y.
À l'heure de mourir, Aro Ueno regardait d'une fleur et pensait. Tout tient à une fleur. En réalité, sa vie avait tenu à trois fils et le dernier seulement était une fleur. Devant lui s'étendait un petit jardin de temple qui faisait vœu de paysages miniatures parsemés de symboles. Que des siècles de quêtes spirituelles aient abouti à cet agencement précis l'émerveillait. Tant d'efforts tendus vers une signification et à la fin, une pure forme, pensait-il encore.
Le Japon dans une heure de ferveur, ce Japon toujours là, ce Japon où on a l'habitude, quand on est sur place, d'assister à une cérémonie. Quelle cérémonie ? Eh bien, la cérémonie du thé.
Tu vas entrer en portant la jarre au niveau de ta poitrine. Tu dois entrer dans la pièce du pied gauche. Le pied gauche d'abord. Dirige-toi vers la bouilloire en traversant le tatami en 6 pas. On ne prend jamais l'eau à la surface. On va toujours la chercher au fond de la bouilloire. On prend l'eau froide au milieu et l'eau chaude au fond du récipient. Sans faire de bruit.
Est-ce que vous avez communier autour du thé, Muriel Barbery, Chani Di Luca, et est-ce que ce thème du thé au Japon pourrait être un sujet de roman ?
Mais alors, oui, d'abord, avons-nous communié autour du thé, Chani ? Je crois qu'il y avait du saké.
Plutôt
surtout.
Le saké.
Oui, parce qu'entre deux disques, vous m'avez dit, nous, c'est le saké.
Non, chez Tocan, il y avait surtout du saké, mais il lui arrive de faire une mini-cérémonie du thé.
Ça doit vous inspirer, vous l'écrivez.
Thomas Egder est en fait, même si c'est un roman qui se passe entre l'Aubrac et les Pays-Bas...
Le dernier roman de Muriel Barbery.
Un long parcours invisible et caché de cérémonie du thé.
Dites-nous-en un tout petit peu plus.
Alors, c'est Thomas Egder, c'est l'histoire de Thomas Egder qui vient de mourir et ses proches se réunissent dans la maison de famille de sa mère, qui est une Française, lui est néerlandais, sur l'Aubrac. Et il ne se passe rien dans le roman, sauf leur conversation croisée.
La fameuse polyphonie exprimée à l'instant par Chani Di Luca.
Et il y a en particulier, j'en viens à la cérémonie du thé, il y a en particulier un dialogue très étrange entre Margot, une amie de longue date de Thomas, qui fait une réapparition étrange après des années d'absence, et le frère aîné du défunt, Jorg. Et en réalité, mais c'est pas la peine que le lecteur le sache pour lire le texte, mais en réalité, cette conversation est guidée par les étapes de la cérémonie du thé et par tout ce qui se passe dans la chambre de thé lorsqu'on y vit un service du thé, un beau service du thé. Et en particulier, on entend l'inaudible et on voit l'invisible. C'est tout le but de cette cérémonie que de nous donner accès à ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, de nous donner accès à ce qu'on n'a pas pu entendre, pas pu dire.
Voilà, le visible et l'invisible qui, là aussi, vous réunissent toutes les deux, puisque Chani, quand elle est devant son piano, elle cherche l'invisible. Je ne me trompe pas.
Oui, et de toute façon, comme disait Baudelaire, la musique creuse le ciel, donc c'est une force qui nous dépasse. Alors tu disais que je sais ce que je fais, je ne suis pas sûre de savoir. La musique est plus forte que nous. Moi, j'ai pu m'en rendre compte quand j'ai joué, par exemple, pendant 3 ans, j'ai travaillé auprès des détenus de la prison de Meaux. Je leur ai présenté Schubert, et au départ, ils s'inscrivaient pour sortir de cellules. Voilà, c'était des prisonniers de longue peine. Et quand ils ont écouté Schubert, tout d'un coup, j'ai vu l'émotion palpable, les larmes aux yeux. C'est Le Voyage d'hiver. En plus, Le Voyage d'hiver, c'est une œuvre magistrale de Schubert qui commence par Gute Nacht, bonne nuit. On commence par la nuit et on traverse la nuit pour arriver à la mort. Et je leur ai demandé de décrire des textes sur chaque pièce. Donc, quelle était leur nuit? Quelle nuit ils avaient traversée? Et donc, il y a le printemps, il y a l'amour et puis la mort à la fin. Et ces textes étaient d'une telle puissance qu'on a fait un spectacle en détention, donc pour les co-détenus, pour les familles. Les gens étaient extrêmement bouleversés et le directeur de la prison a décidé et s'est arrangé pour qu'on fasse ce spectacle sur la scène du Châtelet. Et ça a été une émotion incroyable d'avoir la chance de pouvoir présenter ces textes avec la musique de Schubert. C'est Olivier Frège, le metteur en scène, qui a vraiment tout chapeauté. Et de voir ces personnes tout d'un coup s'humaniser au contact de la musique, de la poésie, d'avoir une voix enfin s'exprimer. Et on voit que l'art tout d'un coup peut transformer. Et c'est pour ça que j'ai un espoir infini en l'homme, parce que j'ai vu leur capacité de transformation lorsqu'ils ont rencontré l'art et la musique.
Ça vous arrive souvent d'aller rencontrer des détenus, jouer pour eux, faire une sorte d'atelier avec eux, Chani De Luca ?
Alors j'ai fait ça pendant pratiquement 10 ans, donc dans plusieurs maisons d'arrêt, maisons de longue peine, et on a fait ce projet de longue haleine sur la thématique de l'amour, de l'argent et du temps. Le temps, l'attente avec Le Voyage d'hiver. Et j'ai vu des détenus qui sont mis à écrire, donc l'écriture a été vraiment salvatrice. Et il y a un film que je recommande vraiment qui m'a marquée. Je me dis qu'il faudrait voir ce film dans tous les lycées, même. C'est Les Frères Taviani qui ont eu l'Ours d'Or de Berlin sur César doit mourir, et qui est une sorte de fiction documentaire où on voit ces détenus qui sont en perpétuité pour la plupart à Milan et qui découvrent le texte de Shakespeare, César. La plupart ont tué, donc il y a une sorte de miroir avec la pièce de Shakespeare, mais tout d'un coup on voit cette transcendance, cette libération de leurs pulsions, justement ces pulsions morbides qui se transforment en beauté. Donc ça c'est un miracle.
Chani De Luca qui non seulement lit mais joue de la musique et regarde des films, notamment le cinéma italien. C'est vrai qu'il est très important dans votre vie, Chani De Luca, Visconti aussi et Les Frères Taviani. Il est 17h47, on va écouter l'américain, le roi de la soul, Robert Finlay.
What you wanna do?
Le Grand Atelier sur France Inter.
C'est le moment des conseils dans le Grand Atelier. Est-ce que, Chani Doulka, vous avez un autre livre que les livres de Muriel Barbery? Oui, j'ai l'impression qu'il y en a un là chez Actes Sud.
Oui, un livre qui me tient vraiment à cœur, c'est le livre de Bertrand Leclerc, qui est un écrivain exceptionnel, érudit, et qui a écrit ce livre Transformation, en hommage, en fait, c'est une sorte de miroir entre la métamorphose de Kafka et l'histoire de sa fille qui était atteinte de surdité, au moment de transformation justement, qui est le titre réel en allemand en fait. C'est ça la traduction littérale, c'est transformation plutôt que métamorphose. Et on a travaillé ensemble sur ce Kafka, sur l'idée de l'homme qui s'aliène dans cette société d'industrialisation. Il va se retrouver comme cet insecte, donc mis à part, presque en tout cas comme un exclu, alors que c'est peut-être la personne la plus sensible, la plus à l'écoute. Et il y a ce miracle vers la fin où il sort de ce lieu où on l'a vraiment caché et il va entendre le violon de sa sœur, l'art, la musique, et il ne pourra pas s'empêcher de sortir, mais c'est le moment de la mise à mort puisqu'il va briser tous les rêves de sa famille. Mais voilà, Bertrand Leclerc a ce talent de mettre en relation la littérature et la réalité, et ce livre je le trouve passionnant.
Donc, Transformation, c'est au pluriel, hein?
Au pluriel, tout à fait.
Bertrand Leclerc, Actes Sud. Le conseil de Muriel Barbery. Qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Qu'est-ce qu'on lit?
Alors, juste avant le conseil, je l'ai lu, ce livre, parce qu'on a la même attachée de presse qui me l'a mis dans les mains en me disant « lis-le ».
Elle vous a obligé.
Et elle m'a obligé, et je l'en remercie parce que c'est un texte assez extraordinaire. Donc, merci, Chani. Alors, comme je ne suis pas parisienne, je suis allée pas très loin de chez moi, à une heure de chez moi, au château de Chaumont-sur-Loire. Merveilleux site hein, du patrimoine de la Loire, château sublime qui surplombe le fleuve.
Et qui expose une peintre.
Et qui expose Fabienne Verdier, pour laquelle j'ai une grande passion depuis maintenant longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, puisque je l'ai découverte lorsque je m'intéressais à la peinture chinoise, et qui s'intéresse à la peinture chinoise, et Ni-François Cheng, finit toujours par tomber sur les œuvres de Fabienne Verdier. Or, il se trouve que je n'avais jamais vu ces œuvres autrement que sur catalogue, et ça a été un choc extraordinaire.
Il y a de la matière, hein ?
Il y a de la matière, de la couleur, et puis il y a aussi quelque chose qu'il est impossible de voir sur un catalogue, l'énergie de l'œuvre. Fabienne Verdier, je crois, se revendique assez largement de la conception taoïste de l'art, qui est d'ailleurs aussi la tienne, hein, Chani, puisque dans laquelle l'art n'est que le souffle du monde passé au prisme de la singularité de l'artiste ou de l'écrivain, qui transforme ce souffle en traits de peinture ou en signes écrits, et qui n'est donc que le véhicule et en même temps le prisme atypique ou spécifique de quelque chose de plus grand qui le dépasse et que l'on peut appeler comme on veut, mais que toi et moi, je crois, nous appelons la nature. Et voir les œuvres de Fabienne Verdier dans ce très beau château, avec en contrebas les jardins, hein, qui sont les supports du très beau festival des jardins qui anime le château tous les ans, voir l'énergie de ces peintures m'a donné accès d'abord à leur beauté époustouflante que les catalogues ne permettent pas de comprendre vraiment, et ensuite à ce sentiment qu'en effet, ce qui transperce les tableaux de Fabienne Verdier, c'est la nature, le souffle de la nature qu'elle a su capturer.
Il faut absolument que vous lui écriviez et vous lui demandez de venir visiter son atelier, vous serez impressionné par les pinceaux qu'elle a fait construire, par sa manière de pousser justement avec son corps pour peindre sur la toile qui est posée sur le sol, ces fameux pinceaux, entre autres, et aussi par toute la préparation d'une œuvre chez Fabienne Verdier. Ça passe par de la lecture.
Oui, j'ai lu ses textes aussi. Hein,
voilà.
Et pas seulement le texte, le premier texte autobiographique.
Il y a des cahiers nombreux.
Silence, mais les cahiers et toute la réflexion qu'elle a sur ce qu'elle fait, elle aussi. Hein,
voilà, elle a la chance d'avoir un très beau jardin et une rivière qui coule. Et tout ça transparaît, effectivement, visible et invisible. On est dans d'autres sujets, Chani Doulka, Muriel Barbery. Moi, je vais vous conseiller, pour la semaine qui vient, d'aller au cinéma. Ça vous arrive, Muriel Barbery?
Bien sûr.
Hein, là, c'est Chien 51, le thriller du romancier Laurent Godet, par le cinéaste de Bac Nord, Cédric Gimnèze. Ça vous emmène, dès les premières images, tout à fait ailleurs. Vous êtes dans un univers futuriste et pourtant totalement crédible. On est à Paris, C'est la nuit. On reconnaît Paris, mais c'est un film d'anticipation. La capitale est divisée en trois zones. Une, deux, trois. Alors, une dans laquelle vivent les plus fortunés, une où vit la classe moyenne et une où vivent les défavorisés. Il y a partout des policiers hyper armés qui tiennent des zones frontières. Tout est sous contrôle, on croirait un pays en guerre. Et Gymnèse, avec des scènes courtes, nerveuses, fait vraiment croire à cette action et au personnage. Une policière de la zone 1, Adèle Exarchopoulos, doit travailler avec un policier de la zone 3, Gilles Lelouch, pour résoudre un meurtre. Si le duo est impeccable, on préfère de loin ces moments d'action au passage amoureux ou comique, parce que la tension est très forte. Lelouch plonge dans les égouts, des drones poursuivent des humains. L'IA est au cœur de l'enquête du duo qui circule dans ce Paris grâce à la reconnaissance faciale et oculaire. C'est vraiment grisant, prenant. On en vient à redouter cette ghettoisation de la capitale et le contrôle total de nos vie. Je prétends pas que tout est réussi dans le film. Robin Duris n'est pas du tout crédible en ministre de l'Intérieur, contrairement à ses deux partenaires policiers. Mais on est vraiment conquis par la capacité de Jiménez à filmer brillamment un futur angoissant. Chien 51, mercredi au cinéma. J'aimerais bien, Chani Di Luca, que vous nous racontiez en quelques mots ce que vous faites au Châtelet le dimanche matin.
Je crois que c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a partagé pendant cette heure, c'est-à-dire éclairer le monde à travers l'art. Et c'est un format particulier, donc c'est les concerts du dimanche matin qui existent depuis 50 ans grâce Jeanine Rose, qui reste une figure, pour moi, une inspiration profonde avec qui j'échange régulièrement.
Et elle vous a dit, vas-y Chani, programme.
Alors, elle m'a demandé des idées, mais c'est surtout là vraiment une nouvelle aventure qu'on a construite avec Olivier Py. C'est Olivier Py qui a voulu prendre ce format parce que justement, c'est un format particulier. On commence par un quart d'heure de poésie, de philosophie. Pour l'ouverture, on a la chance d'avoir Golshifteh Farahani qui va lire justement des textes sur la nature, de Rilke, de Rumi, de Novalis. Et ensuite, de la musique classique pendant 45 minutes qui va justement, on va rentrer entre les mots et la musique comme Proust dans cette communion de l'invisible. Et chaque concert est une thématique différente. Il y aura ensuite le philosophe André Comte-Sponville qui parlera du Cosmos et de Bach. On va entendre les suites de Bach après sa présentation. On va terminer avec Denis Podalydès qui va parler des grands romantiques de Nerval à Lamartine et on écoutera les quatuors justement des grands romantiques de Dvorak, Grieg par le quatuor Modigliani.
C'est excitant de programmer,
voilà.
Non ?
Ah oui, c'est merveilleux et puis c'est un rêve parce que je me dis la littérature et la musique se retrouvent en communion sans jamais expliquer. C'est vraiment une sorte de, d'ouverture et d'inscrire la musique dans le réel. Donc, je suis très heureuse que Olivier Py m'ait donné cette chance.
Vous avez parlé de notre comédienne, de cette comédienne iranienne et française aussi, maintenant. Redites-nous son nom.
Oui, Golshifteh Farahani.
Qui va dire des poèmes et on en a un qu'on pourrait écouter maintenant dans le grand atelier, dit par elle.
J'ai péché. Péché dans le plaisir. Dans des bras chauds et enflammés. J'ai péché. Péché dans des bras de fer. Dans des bras brûlants et rancuniers. Ses lèvres ont versé l'envie sur mes lèvres. Du chagrin de mon cœur fou, je me suis libérée. Je te veux, mon bien-aimé, je te veux. Toi, dans les bras sous vivifiants, je te veux, toi, mon amoureux fou. L'envie a enflammé son regard. Le vin rouge a dansé dans le verre. Et sur le lit doux, mon corps, ivre de volupté, sur sa poitrine a tremblé.
De la poésie de Farouk Farrokhzad, Le péché, pour se quitter, pour remercier Chani Di Luca. Renaissance, c'est votre dernier disque. Et puis vous programmez les concerts du Châtelet du dimanche matin. Et je salue aussi et remercie Muriel Barbery.
Merci Vincent, merci.
David Leprince a réalisé cette émission. Marion Guilbeault et Alexandra Conet m'ont aidé à la préparer. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Loïs Moreau. Vous avez rendez-vous à 17h samedi prochain sur Inter dans la balade de Clara Luciani. Dimanche, même heure, le grand atelier du romancier Antoine Vauters.